riches et que les pauvres soient plus pauvres. Ce n'est pas un programme qui passerait électoralement. Et à la différence du Chili, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, on est encore dans un cadre qui se veut virtuellement démocratique. Donc on est obligé de faire passer ces idées autrement. Eh bien, on va les faire passer grâce à ces chercheurs, qui vont être très largement relayés par les médias, et qui diront, nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout que les plus riches soient plus riches et que les plus pauvres soient plus pauvres, mais voyez, on a une situation de chômage, et la situation de chômage, il faut qu'on en sorte, et pour qu'on en sorte, il faut baisser le coût du travail. Et c'est ça qui aidera les pauvres à sortir de la misère. Donc ils vont donner un habillage savant aux préférences économiques et aux préférences financières des milieux dirigeants, qui après vont réussir à faire avancer leur politique en disant « c'est dans l'intérêt de tous qu'on poursuit ces politiques ». On enrichit les riches parce que si on enrichit les riches, après ils vont créer des entreprises et ils vont offrir des emplois aux pauvres. C'est la grande théorie de Reagan à partir des années 80-82. Mais ça ne marche que si vous avez cette espèce d'habillage savant. C'est un programme, c'est ça d'ailleurs la caractéristique à mon avis du programme libéral, c'est qu'il ne peut pas réussir politiquement sous ses propres couleurs. Il faut qu'il avance masqué en permanence. La privatisation des grandes entreprises au Royaume-Uni, elle était opposée pour chacune des grandes entreprises. Elle a quand même eu lieu. En Nouvelle-Zélande, quand un gouvernement socialiste a envisagé de privatiser les forêts domaniales et de les vendre à des conglomérats japonais ou américains, etc., on a fait un sondage pour savoir ce qu'en pensaient les Néo-Zélandais. Il y avait 4% des Néo-Zélandais qui étaient favorables, 79% qui étaient opposés. Et pourtant, elle a eu lieu. Parce qu'à chaque fois, on a présenté ces mesures-là comme le produit d'une nécessité. Donc on n'est pas persuadé que c'est bon, on vous dira, mais il faut le faire, parce qu'on est obligé de le faire.
Chapter 1. The making of a stock picker. Chapter 2. The Wall Street oxymoron.
Michael takes a loan from a Midwestern SNL. He puts the money in a quick drying inkwell. Takes a loss, gets cross, walks to the corner store, pulls a knife, calls his wife, can't take it anymore. Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire, where does the water flow?
Chapter 3. Is this gambling or what?
Jerry's in the attic, messing with the static. Junior's on the telephone, nothing problematic. Julie's selling T-bonds, her bill is turning over. John is building walls, manipulating a takeover. Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire and where does the water flow?
Manipulating a takeover.
Get tough, get right, try to get some sleep at night. Try hard, get harder, love to win, live to fight. Own the town, love the best, don't share the treasure chest. If you cheat, get away, lead them down an alleyway. Look out, Joe, how far will it go?
Chapter 4, Passing the Mirror Test.
Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire and where does the water flow?
This is the end of Side 1A. On Side 1B, Peter Lynch explains how to research the fundamentals of a company so that you too can pick out the winners.
Vous revenez souvent sur une formule et sur une idée qui est la tendance autodestructrice du capitalisme. Est-ce que... il ne suffirait pas, au fond, de le laisser faire pour qu'il se détruise lui-même.
Oui, mais à quel prix ?
Il y a ce calcul-là.
Oui, mais à quel prix et pour qui ? C'est le genre de calcul qu'on peut faire quand on est dans la comète. Mais quand on vit dans le monde social, on sait que les principales victimes, ça ne sera pas les artisans de la révolution capitaliste, ni ceux qui en ont d'abord profité. Mais ce sera une nouvelle fois ceux qui en ont été les victimes, qui subiront de plein fouet cette transformation ou cette crise. On l'a bien vu tout de même dans les années, à la fin des années 90, avec les crises qui ont éclaté en Russie, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine.
98, oui.
En 98, on l'a vu à de nombreuses reprises, les principales victimes, ce ne sont jamais les milieux les plus favorisés qui ont les moyens de se protéger. Donc on ne peut pas appeler de ses voeux cette crise-là en se disant, voilà, elle provoquera une explosion quelconque. C'est une vision qui est un peu dangereuse. D'autant qu'il faut constater que le capitalisme, là, s'est tellement renforcé ces dernières années que ces crises, y compris des crises majeures, ne provoquent pas de transformation politique sensible. On évoquait les années 30. Lorsqu'il y a eu la crise des années 30, il y a eu des évolutions politiques très différentes selon les pays. Pensons à ce qui s'est passé en 1987 avec le krach des valeurs boursières. Il n'y a pas eu de conséquences politiques. Il ne s'est pour ainsi dire rien produit après. 97-98, une crise économique majeure dans trois zones géographiques différentes à la fois. Qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. Quelques années plus tard, les choses se remettent en place. 2001, la bulle Internet. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques années plus tard, les choses se remettent en place. En d'autres termes, le capitalisme arrive de plus en plus à digérer ces crises parce qu'il n'y a pas de vision d'une société alternative. Et il n'y a pas de vision d'une société alternative, en partie parce que